Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de RSF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h et très bientôt téléchargeable sur le site du réseau Éducation sans frontières, hein, http://resf.info/radio. Et là, vous trouverez toutes les émissions archivées depuis le début. Et donc, je propose qu'on retourne à la réunion publique de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers et qu'on écoute, oui, c'est ça, Patrick Henriot, hein, qui va nous parler plus particulièrement de l'assignation à résidence ou voir que comment on peut faire pire que l'enfermement en rétention, ou plutôt comment l'assignation à résidence et la rétention sont complémentaires. Donc tout de suite, on retrouve Patrick Henriot du syndicat de la magistrature.
D'abord, pour commencer, Patrick Henriot, à qui je passe la parole, sur le thème de l'assignation à résidence, donc qui est vraiment une modalité qui vient s'inscrire complètement dans la question de cet hébergement policier sous contrôle qui émerge déjà, qui est déjà à l'œuvre sur le terrain.
Bonsoir à toutes et à tous. Sans transition, donc, ou plutôt grâce à la transition que vient de proposer David, on parle tout de suite effectivement de l'assignation à résidence, qui est un peu une des dispositions phares. Il y en a beaucoup dans le projet de loi, mais on a choisi de se concentrer évidemment sur ce qui concerne l'enfermement. Et donc, c'est une disposition phare parce que c'est une disposition du projet de loi qui peut le plus se présenter, qui est d'ailleurs présentée par le gouvernement comme une disposition extrêmement vertueuse, puisque l'objectif affiché par le gouvernement, c'est au fond de mettre notre législation en conformité avec la directive Retour et au fond de privilégier cette forme soft de l'enfermement qu'est l'assignation à résidence par rapport à la rétention. Pourquoi se mettre en conformité avec la directive? Parce que vous vous souvenez sans doute que cette directive précise que les mesures de contrainte que l'administration peut mettre en œuvre pour parvenir à l'éloignement d'une personne étrangère doivent être utilisées de manière graduée. C'est-à-dire que l'esprit de la directive, c'est qu'on ne peut utiliser les mesures les plus contraignantes qu'à défaut de pouvoir utiliser des mesures moins contraignantes. Et donc, évidemment, ça crée une espèce de hiérarchie, si on peut dire, entre les différentes mesures de contrainte que l'administration peut mobiliser pour s'assurer de la personne d'un étranger. Et donc ça signifie qu'a priori, évidemment, la rétention n'est censée être que la mesure de dernier recours et que l'assignation à résidence, par conséquent, doit être privilégiée chaque fois que c'est possible. Voilà l'esprit de la directive. Et le gouvernement, donc dans cette démarche qu'il veut présenter comme vertueuse, annonce qu'il reconnaît volontiers que notre législation n'est pas parfaitement conforme à la directive, parce qu'effectivement, notre législation fait de la rétention la mesure quasi exclusive de contrainte. Et puis aussi parce que le gouvernement admet que même si l'assignation à résidence est possible, avant même que la loi ne soit votée, elle n'est que très modérément utilisée, pour dire presque pas du tout. Voilà. Donc on nous dit, on va se mettre en conformité avec la directive et on va privilégier dorénavant l'assignation à résidence. Et les dispositions du projet de loi sont censées remplir cet objectif. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que cette présentation vertueuse, lorsqu'on examine les textes d'un peu près, on s'aperçoit que c'est un faux semblant et qu'en réalité, le gouvernement n'a pas vraiment l'intention de faire diminuer le nombre de rétentions au profit d'une augmentation des assignations à résidence, qui serait normalement le résultat logique de ce qui est annoncé, puisque si on veut privilégier l'assignation à résidence, mesure moins contraignante, eh bien on doit faire mécaniquement diminuer le nombre de rétentions et augmenter le nombre d'assignations à résidence. Ça serait, si on comprend bien, un système de vases communicants. En réalité, on s'aperçoit quand on lit quand on examine les dispositions du projet de loi, c'est ce que je vais vous proposer de faire assez rapidement, que c'est un faux semblant et qu'en réalité, ces dispositions ont pour objectif essentiel de donner des moyens supplémentaires aux préfets pour améliorer la productivité des procédures d'éloignement, c'est-à-dire pour faire en sorte que le plus possible d'étrangers interpellés soient effectivement éloignés à l'issue de ces procédures de contrainte. Donc, premier objectif, offrir aux préfectures le maximum de souplesse dans l'utilisation des différentes mesures de contrainte qui sont à leur disposition, en facilitant le choix de l'une ou de l'autre, et en facilitant le passage de l'une à l'autre aussi, on va le voir. Et puis, Deuxième objectif, lorsqu'on examine en détail les dispositions du projet de loi, on s'aperçoit qu'évidemment, le gouvernement, il veut faire en sorte que l'assignation à résidence soit aussi productive, si je peux dire, que la rétention, en termes d'efficacité, donc en termes de capacité d'éloignement. Et donc, il va assortir ce nouveau régime de l'assignation à résidence d'un certain nombre de dispositions qui vont en renforcer le caractère contraignant, de telle manière que lorsque le gouvernement, le préfet plutôt, utilisera l'assignation à résidence, il sera en mesure de s'assurer qu'il sera bien dans la possibilité d'assurer l'éloignement effectif de la personne étrangère grâce à ces nouvelles mesures de coercition qui vont, si je peux dire, accompagner ce nouveau régime de l'assignation à résidence. Voilà donc en quelques mots l'introduction. Donc je ne veux pas vous noyer sous les textes trop techniques, mais quand même, je viens d'affirmer un certain nombre de choses. Il faut quand même que je vous explique en quelques mots d'où je tire ces conclusions qui pourraient paraître hâtives. Alors d'abord, sur cette histoire de faux-semblant sur la priorité qui serait accordée à l'assignation à résidence par rapport à la rétention. Au fond, c'est assez simple. Vous avez dans le projet de loi un article 22 qui modifie l'article 561.2 du CESEDA et qui définit les conditions, les cas dans lesquels l'assignation à résidence doit être privilégiée, doit être utilisée. Et quand on lit cet article, je ne veux pas vous en infliger la lecture, mais on est a priori très satisfait parce qu'on s'aperçoit que c'est la reprise in extenso de tous les cas dans lesquels, jusqu'à maintenant, c'était la rétention qui était prévue. Donc on se dit, formidable, très bien, le gouvernement a compris la leçon de la directive et tous les cas où on appliquait la rétention jusqu'à maintenant vont être les cas dans lesquels on va appliquer l'assignation à résidence. Ça va marcher. Il n'y aura plus que des rétentions tout à fait exceptionnelles et la majorité des mesures de contrainte seront des assignations à résidence. Le problème, c'est qu'il faut aussi lire l'article 19 du projet de loi qui réécrit, lui, l'article L551-1 du CESEDA et qui définit les cas dans lesquels la rétention restera possible. Car le gouvernement, évidemment, n'abandonne pas complètement l'idée d'utiliser la rétention, mais il affiche simplement la volonté de l'utiliser dans moins de cas. Sauf que lorsqu'on lit cet article 19, ça devient très intéressant parce que je résume la disposition, mais au fond, on nous dit que le préfet peut opter pour la rétention, par préférence à l'assignation à résidence, lorsqu'il considère qu'il y a un risque que la personne concernée se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'il y a un risque de fuite. Et le problème, c'est que la loi précise très exactement les cas dans lesquels le préfet est autorisé à considérer que le risque de fuite est constitué. Et quand on lit cette liste de cas dans lesquels le risque de fuite doit être considéré comme caractérisé, bon, c'est pratiquement tous les cas dans lesquels un étranger se trouve en situation irrégulière. Je ne veux pas vous les lire tous, mais les petits a et petits b suffiront. Si l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa à l'expiration d'un délai de 3 mois, etc. Pratiquement toutes les hypothèses de séjour irrégulier sont visées. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le préfet pourra continuer d'utiliser la rétention pratiquement dans tous les cas. Et donc, au final, on s'aperçoit que ces dispositions qui étaient censées assurer un transvasement, si je peux dire, de la rétention au profit de l'assignation à résidence, en réalité, permet au préfet d'appliquer l'une ou l'autre des deux mesures dans pratiquement tous les cas. C'est-à-dire qu'on leur donne le choix d'appliquer indifféremment l'une ou l'autre de ces mesures suivant, non pas leur bon vouloir, mais suivant ce qu'ils considéreront être comme la mesure la plus efficace ou suivant les dispositions qu'ils croiront devoir prendre en termes de place de rétention pour gérer, effectivement, c'est un peu ce qu'expliquait David, une gestion globale de l'hébergement d'urgence, entre guillemets, en tout cas, de toutes les situations dans lesquelles des étrangers doivent être placés dans une situation où on sait où ils sont et on a, si je peux dire, la main sur eux. Voilà, donc une disposition qui s'affiche comme vertueuse, mais qui s'avère en réalité être une disposition un peu plus cynique que ce qu'on a bien voulu nous faire croire, et qui consiste simplement à donner un signal au préfet pour leur dire « Vous pouvez dorénavant utiliser l'une ou l'autre de ces deux mesures, comme bon vous semble, et pratiquement dans toutes les situations. » Deuxième observation, dans cette fameuse souplesse qu'on offre au préfet, il y a un élément supplémentaire aussi, qui est la possibilité qui leur est donnée de passer d'une mesure à l'autre, c'est-à-dire éventuellement de passer d'abord de la rétention à l'assignation à résidence, c'est-à-dire lorsque une personne pour une raison ou pour une autre, n'est plus maintenu en rétention, mais n'est pas encore éloigné, le projet de loi dit expressément que dans toutes les situations, quelle que soit la cause pour laquelle il est mis fin à la rétention, l'assignation à résidence pourra être appliquée, si je peux dire, dans la foulée, dans la continuité. Et ce faisant, le projet de loi valide une pratique qui, jusqu'à maintenant, était un peu fragile. Et l'exposé des motifs est très clair. Il dit « L'article 20 lève ainsi toute ambiguïté sur la possibilité d'enchaînement de la rétention et de la mesure d'assignation à résidence alternative non privative de liberté. » Donc on voit bien que là, il s'agit bien de faire en sorte que le préfet, si jamais pour une raison ou pour une autre, même si c'est par exemple le JLD qui met fin à la rétention, le préfet peut immédiatement s'assurer de la personne à l'étranger en le plaçant en assignation à résidence. Et d'ailleurs, l'étude d'impact est encore plus claire puisqu'elle précise qu'il s'agit de, j'ouvre les guillemets, « garantir un enchaînement cohérent des mesures de surveillance et la complémentarité de ces deux mesures est ainsi renforcée ». Donc on voit bien que c'est toujours l'efficacité de l'éloignement qui est visée et non pas l'assouplissement, si je peux dire, ou l'humanisation des conditions de rétention des étrangers. Et vous avez évidemment une disposition symétrique à l'article 22 qui permet cette fois-ci de passer de l'assignation à résidence à la rétention. Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au troisième mois, etc., c'est-à-dire le risque de fuite, tel que je l'ai déjà évoqué, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence, les dispositions de l'article 551.1 sont applicables, c'est-à-dire qu'on peut passer à la case rétention. Donc il y a une continuité absolue entre les deux types de mesures de contraintes qui peuvent être exercées, et on peut indéfiniment faire passer un étranger de la case rétention à la case assignation à résidence, et vice-versa. Dernière série d'observations, c'est ce que je vous disais sur le renforcement des mesures de contrainte qui sont, si je peux dire, corrélées à ce nouveau régime de l'assignation à résidence. Parce que quand on lit l'étude d'impact, on voit bien quel est l'objectif du gouvernement, ou son souci plutôt. On nous explique très clairement et très froidement que jusqu'à maintenant, l'assignation à résidence était très peu utilisée. Ben parce qu'il y avait un gros problème avec l'assignation à résidence, c'est que si les personnes quittaient le lieu d'assignation à résidence, eh bien, elles s'évanouissaient dans la nature et on ne pouvait plus les éloigner. Et donc, c'était quand même très embêtant. Donc, il fallait faire en sorte que l'assignation à résidence donne à l'administration les mêmes garanties que la rétention, c'est-à-dire qu'elle soit absolument sûre de pouvoir éloigner la personne à l'issue de la personne d'assignation à résidence. Et pour ça, il fallait deux choses qui sont prévues dans le projet de loi. D'abord, il fallait faire en sorte que la personne assignée à résidence soit tenue d'aller chercher au consulat le document de voyage sous couvert duquel elle sera éloignée. Et on ajoute donc à l'article 561.1 du CESEDA une disposition qui prévoit que l'étranger astreint à résidence doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires en vue de la délivrance d'un document de voyage. Donc là, voilà une disposition qui crée l'obligation pour l'étranger assigné à résidence d'aller au consulat retirer son document de voyage. Et évidemment, ça ne suffisait pas. Et on ajoute une deuxième disposition qui prévoit que si l'étranger assigné à résidence en application de 561.2 n'a pas déféré sans motif légitime à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche dans les conditions et pour le temps strictement nécessaire à celle-ci. Voilà donc l'administration qui va être dotée d'un pouvoir supplémentaire, qui est celui d'envoyer un officier de police ou de gendarmerie au domicile de l'étranger assigné à résidence pour le contraindre, l'accompagner sous la contrainte, évidemment, jusqu'au consulat pour y retirer son document de voyage. Et puis, ça ne suffisait pas, évidemment. Et la dernière mesure est la plus grave, qui est prévue par le projet de loi. C'est celle qui permet à l'autorité administrative d'aller chercher l'étranger au lieu où il est assigné à résidence au moment d'exécuter la mesure d'éloignement. Vous avez une disposition qui est prévue à l'article 22 du projet de loi, toujours, qui modifie l'article L561.2 du CESEDA. Et que je vais vous lire parce qu'elle est quand même, il faut l'examiner de près. En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'il pénètre au domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, lui notifier une décision de placement en rétention. Donc voilà l'administration qui va considérer que le moment est venu de procéder à l'éloignement parce qu'elle a réuni tous les documents qui étaient nécessaires, parce qu'elle a fait en sorte que le document de voyage soit remis par les autorités consulaires, etc., qu'il y a un avion qui est prévu. Donc voilà le moment d'aller exécuter la mesure d'éloignement. Et donc l'administration va pouvoir aller faire chercher au domicile où l'étranger est assigné à résidence, le faire chercher par les services de police ou de gendarmerie. Et évidemment, ça suppose que les services de police ou de gendarmerie pénètrent dans le domicile. C'est donc une mesure attentatoire à la protection du domicile. Et c'est pour ça qu'il est prévu qu'un juge des libertés et de la détention autorise cette entrée dans le domicile de l'étranger assigné à résidence. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on nous dit que le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement. Ça, c'est pas encore trop difficile. On peut effectivement vérifier que la mesure d'éloignement est bien applicable, est bien exécutoire. Mais il doit s'assurer aussi de l'obstruction volontaire de l'étranger à l'exécution de la mesure d'éloignement, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de ce que l'étranger n'a pas répondu à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, l'administration va venir, en réalité, un agent de la préfecture va se présenter devant le JLD, le juge des libertés et de la détention, va lui présenter une requête en lui disant « Monsieur le juge, je vous affirme que Monsieur X, assigné à résidence, fait obstruction à la mesure d'éloignement et je vous demande donc de m'autoriser à aller l'appréhender à son domicile. » Le juge n'aura strictement aucun moyen de vérifier la réalité de cette obstruction car c'est une procédure non contradictoire. Ça passera en l'absence de l'étranger. C'est sur les simples affirmations de l'administration que le juge des libertés et de la détention va rendre son ordonnance. De là à penser que ces ordonnances seront rendues à l'aveugle et quasi mécaniquement, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir. Voilà donc une mesure de contrainte tout à fait exceptionnelle qui permet d'aller chercher quelqu'un chez lui avec les forces de police ou de gendarmerie pour l'emmener jusqu'à la passerelle de l'avion dans des conditions qui sont soi-disant vérifié par un juge des libertés et de la détention, chargé constitutionnellement de veiller au respect des libertés individuelles, mais un juge qui sera totalement démuni des moyens de vérifier la réalité des conditions de mise en œuvre du texte. Et il y a une petite cerise sur ce mauvais gâteau, c'est qu'on nous dit évidemment que ces ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel. Mais il est précisé que l'appel n'est pas suspensif. Donc l'étranger qui aura été reconduit dans ces conditions, qui par exemple pourra contester avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement, il est parfaitement en mesure de contester avoir fait obstruction, eh bien il aura beau faire appel de l'ordonnance du JLD autorisant son appréhension à domicile. D'abord, il sera déjà dans l'avion au moment où il réalisera qu'il peut éventuellement faire appel, mais surtout à supposer même qu'il puisse faire enregistrer son appel avant même d'être embarqué, son appel sera jugé évidemment bien après et ça sera un coup d'épée dans l'eau. Voilà les quelques mots qui vous donnent un premier aperçu de cette mesure d'assignation à résidence telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, qui se présente encore une fois comme une amélioration dans le sens d'une plus grande humanité, mais qui en réalité est un faux-semblant et qui permet simplement d'assurer une plus grande efficacité des mesures d'éloignement.
Merci Patrick pour cette présentation. Peut-être pour faire le lien avec ce que j'ai dit en introduction avant que Bruno prenne la parole, on comprend bien toute la volonté de rendre opérationnel un dispositif dont la finalité est l'expulsion, puisqu'effectivement cette assignation à résidence-là s'inscrit dans une action du gouvernement qui vise à créer de nouveaux lieux contrôlés, financés par le ministère de l'Intérieur, contrôlés par les préfets, où les personnes seront davantage contrôlées, à l'écart des lieux habituels, et en fait, où ces personnes assignées à résidence, elles vont être plus facilement expulsables. Alors nous, ce qu'on constate parmi de très très nombreuses violations des droits, que je ne vais pas développer là, c'est quand même quelques phénomènes très forts autour de ça. Le premier, c'est une forme de chantage à l'hébergement. Pour le dire vite, c'est soit les personnes respectent les conditions de l'assignation à résidence, se plient éventuellement à une expulsion, soit on les met à la rue. Les pouvoirs publics les mettent à la rue, c'est ce qu'on commence à constater. Donc il y a quand même un outil assez fort pour que ces personnes-là disparaissent pas dans la nature, en plus des outils que le projet de loi donnera. La question aussi, et je m'en tiendrai simplement là, la question de l'invisibilisation de ces personnes, c'est-à-dire qu'elles sont très souvent hébergées dans des lieux qui ne sont pas dans les circuits habituels, où les personnes peuvent être accompagnées, aidées dans la défense de leurs droits, et donc pour exercer des recours qui doivent s'exercer de manière très rapide, les délais étant très courts. Donc voilà, en particulier pour les mesures d'éloignement, puisqu'on voit que les personnes assignées à résidence se voient notifier souvent en même temps une assignation et une mesure d'éloignement. Ça permet de faire un peu la transition peut-être avec la présentation que Bruno Vinet donc, va nous faire sur la question des obligations de quitter le territoire, de l'accès au juge et du droit au recours, en tout cas les points principaux qu'on peut retenir, les points d'attention sur ce projet de loi.
Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net partout dans le monde. Et donc là, on vient d'écouter l'intervention de Patrick Oriot du syndicat de la magistrature sur l'assignation à la résidence et la conclusion de David Rowy. Et la semaine prochaine, on écoutera la suite de cette réunion publique de l'enfermement de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers qui s'est tenue lundi dernier à la Ligue des droits de l'homme, en écoutant notamment les interventions de Christophe Pouli qui est avocat, et de Clémence Richard, qui est juriste aussi à la CIMAD. Et tout de suite, et avant de retrouver le programme spécial FPP Microclimat, rapidement notre petit agenda. Donc tout de suite,